Fabienne Sintès.
Bonsoir Charlinet et tout le monde. À demain, nous on est parti. Le 18-20 de France Inter est prêt à décoller. Armement des toboggans et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Pour entamer ces deux heures, le premier journal complet de la soirée, c'est celui d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce jeudi 14 novembre commence à l'hôpital.
La fièvre des professionnels de santé. Emmanuel Macron promet une ordonnance et un remède fort mercredi prochain, au moment où les médecins et infirmiers manifestaient partout en France. Thierry Breton sera bien le futur commissaire européen de la France. Sa candidature vient d'être validée. Les municipales à Nice, Éric Ciotti laisse le champ libre au maire sortant Christian Estrosi. La droite s'évite une nouvelle guerre des chefs. Le Goncourt des lycéens couronne la romancière Karine Thuil, un prix spécial remis par de jeunes lecteurs passionnés et très souvent un choix pertinent qui se vend très bien en librairie. Les lycéens nous expliquent ce soir leur délibération. La neige tombe, y compris en plaine. 11 départements en vigilance orange autour de la vallée du Rhône. On fait le point sur la météo complète à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir nous allons en Éthiopie. Mais pourquoi? Eh bien parce que c'est un pays qu'on suit très près. Grosse promesse démocratique, paix en vue avec l'Érythrée voisine, prix Nobel. Et depuis ce prix Nobel, notamment, le pays va mal. Il est à deux doigts de retomber dans les disputes ethniques qui l'ont déjà perdu. On va essayer de regarder où nous en sommes. Le bruit du monde est au Sri Lanka qui vote ce week-end. Et puis 19h20, le téléphone sonne, l'hôpital dans la rue, tout l'hôpital. C'est moins le nombre qui compte d'ailleurs que la couleur. Les chirurgiens, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les étudiants pour réclamer un vrai traitement de choc. Vous allez en parler dans un instant, Amélie. On y va ensemble au 01 45 24 7000 en deuxième heure.
France Inter.
Mais sinon, commençons ce journal, Amélie, par une sorte de numéro de voltigeur.
Des acrobaties qui resteront dans les annales de la gendarmerie. Les forces de l'ordre ont arrêté 10 personnes près d'Orléans, dans le Loiret, 10 malfaiteurs roumains spécialisés dans le vol des cargaisons de camions, en pleine circulation, en plein mouvement, à mi-chemin entre une cascade d'un James Bond et les braquages sans armes ni violence de Spaggiari. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Expliquez-nous ce mode opératoire pour le moins spectaculaire. Ah oui. Les voleurs vident les poids lourds pendant qu'ils roulent sur l'autoroute.
Ah oui, du jamais vu, à tel point que même les gendarmes disent avoir eu du mal à y croire avant de constater les faits. À chaque fois, même processus, les malfaiteurs repèrent le poids lourd à la sortie de l'entrepôt, le suivent jusqu'à l'autoroute. Ensuite, il faut visualiser la scène. Tout se passe de nuit à 90 km/h. Les voleurs viennent coller leur voiture à l'arrière du camion. L'un d'eux sort par le toit ouvrant, va sur le capot et fracture la serrure de la remorque devant lui. On est toujours à pleine vitesse. L'homme ramasse ensuite la marchandise dans la remorque et la jette vers un deuxième véhicule, un utilitaire avec une trappe aménagée sur le toit. Ses complices récupèrent le tout. L'affaire et plier le camion vidé. L'équipe a agi ainsi 21 fois en France et jamais les conducteurs des poids lourds ne se sont rendus compte de quoi que ce soit. Cosmétiques, tabac, produits multimédia, tout était bon pour ces voleurs cascadeurs. Préjudice estimé 3,5 millions d'euros. L'équipe avait déjà sévi par ailleurs 10 autres pays européens. Le 6 novembre, fin de parcours, les 10 suspects sont incarcérés. Côté enquêteur, maintenant que tous sont sous les verrous, on ne cache pas malgré tout son admiration. L'un d'eux salue avec une toute petite pointe d'ironie de vrais artistes.
De haut vol dans tous les sens du terme. Merci Ariane Grissel. La justice, ce sont aussi les soupçons qui pèsent toujours au-dessus de la tête du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. La Cour de cassation a décidé de valider un nouvel examen de la plainte contre lui. Plainte d'une femme l'accusant de viol déposée en 2009. Un juge d'instruction avait classé sans suite. La plaignante avait fait appel, mais hors délai, selon la Cour d'appel de Paris. Finalement, son appel pourra quand même être examiné. Thierry Breton sera bien le commissaire européen français. Sa candidature a été validée par les eurodéputés. Il lave ainsi l'affront fait à Sylvie Goulard, l'ex-candidate retoquée, et à Emmanuel Macron, qui l'avait choisi. L'ex-PDG d'Atos vise un très large portefeuille économique allant de la politique industrielle au marché intérieur en passant par le numérique, la défense et l'espace.
Une ordonnance la semaine prochaine pour l'hôpital.
Emmanuel Macron promet des décisions fortes mercredi prochain. Le président de la République, en déplacement dans la Marne, s'est exprimé au moment où le monde de la santé manifesté partout en France. C'est rare, mais c'est à la hauteur du malaise des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, des étudiants en médecine. Par milliers, ils ont défilé à Paris, à Lyon, Bordeaux, Marseille ou encore à Toulouse, où Stéphane Iglesias a rencontré des infirmières à bout. Elles se démènent mais restent impuissantes face à la dégradation de la prise en charge des malades.
Hôpital en danger, tous concernés, sous ce slogan, beaucoup de soignants se sont retrouvés.
Tous les manifestants rencontrés disent qu'ils doivent jongler avec une activité en hausse et des postes insuffisants. Isabelle Roger, infirmière au service neurochirurgie de Purpan.
Ça veut dire qu'il faut faire des choix, oui. Alors que tous nos patients ont besoin de soins, ben on fait les urgences respiratoires, on fait les mobilisations, les premiers levés, on fait des choses en priorisant. Donc en laissant certaines personnes, elles sont levées une fois sur deux.
Gabrielle Forzi travaille, elle, au service de traumatologie et elle est épuisée.
Petit à petit, ils nous suppriment du personnel, en supprimant des postes. Et en fait, à un moment donné, bon, on peut plus continuer à travailler de cette façon-là parce que c'est notre vie de famille qui en pâtit.
Céline est infirmière de poule au CHU de Toulouse et elle explique qu'il y a un sous-effectif permanent.
La conséquence pour les malades, c'est que les malades, ils peuvent sonner des fois longtemps avant qu'on puisse répondre parce qu'on est occupé avec quelqu'un d'autre. Du coup, on fait du soin à la chaîne. Les gens quittent l'hôpital, les infirmières qui ont de l'expertise, qui ont plus de 10 ans de carrière s'en vont. Et on se retrouve démunis face à une direction qui ne veut pas nous écouter.
Alors tous disent qu'au-delà des beaux discours des ministres ou du président de la République, il faut désormais des actes. Toulouse, Stéphanie Glazis, France Inter.
La fièvre dans les hôpitaux et la déprime des agents des impôts. Ils se sont mis en grève aujourd'hui également. À la mi-journée, le syndicat majoritaire solidaire affichait entre 30 et 40% de personnel grévistes. Ils protestent contre la réorganisation de leurs services. 5800 suppressions de postes d'ici 2022. La direction générale des finances publiques qui a déjà perdu 40 000 emplois depuis 17 ans. La mairie d'Annecy en feu, le bâtiment et une école voisine ont été évacués. La préfecture parle d'un incendie accidentel, un court-circuit dans une armoire électrique, selon des témoins. L'édifice datait des années 1850, à l'époque où la Savoie appartenait au royaume italien de Piémont-Sardaigne. À Nice, la mairie ne l'intéresse plus. Éric Ciotti, aujourd'hui député LR des Alpes-Maritimes, renonce à se présenter aux élections municipales l'an prochain. Il laisse le champ libre au sortant, Christian Estrosi. Une bonne nouvelle pour la droite. Bonsoir Cécilia Arbona.
Bonsoir.
Une épine de moins, donc, dans le pied du président des LR, Christian Jacob.
Si virulent depuis 2017 dans ses attaques verbale contre le maire sortant Christian Estrosi, ancien camarade devenu sa cible. Éric Ciotti fait profil bas ce soir. Il choisit donc l'écrit. Dans sa lettre aux Niçois, il explique qu'il ne sera pas candidat. Faire la paix nécessite sans doute plus de courage que de livrer la guerre. Il n'y aura donc pas de duel entre les deux frères ennemis de la Riviera. C'est une victoire donc, oui, pour Christian Jacob. Le chef des Républicains avait convoqué Éric Ciotti et Christian Estrosi au siège du parti rue de Vaugirard. Il y avait là aussi François Baroin, membre du conseil stratégique. Et lors de cette réunion à 4, eh bien, le président du parti et le maire de Troyes avaient fait pression sur un ton, dit-on, cordial mais ferme sur Éric Ciotti pour qu'il se retire. Un autre paramètre de taille a pesé sur sa décision, le sondage Ipsos du mois dernier qui donnait Estrosi favori avec 39% des voix. C'est donc la deuxième victoire pour Christian Jacob après Paris où l'investiture de Rachida Dati a été acté sans déclencher la foudre. Reste le troisième et dernier dossier délicat, la mairie de Marseille, bastion de droite depuis 25 ans, que se disputent deux membres des Républicains, Martine Vassal et Bruno Gilles. L'affaire sera tranchée en commission d'investiture le 27 novembre.
Merci Cécilia Arbaudin.
Il est 18h08 sur France Inter, une accalmie à Venise. Le niveau de l'eau baisse.
Mais celui de la colère monte. Les Vénitiens commencent à faire les comptes, à chiffrer les dégâts colossaux provoqués par une aqua alta, une marée haute, jamais vue depuis plus d'un demi-siècle. Cet épisode exceptionnel va coûter cher sur le plan financier, mais aussi sur le plan politique, car les habitants de la Sérénissime pointent du doigt des coupables. C'est le reportage dans la cité des Doges de notre envoyé spécial Bruce de Galzin.
Otello est encore en train de nettoyer son appartement. Il y vit depuis sa naissance en 1939 et aujourd'hui en veut particulièrement à ceux qui gèrent sa ville.
Ils ont volé et ils volent encore avec ce projet Moïse qui a modifié toute la morphologie de l'eau qui entre. Moi je pêche et les conséquences je les connais. Ils ont construit des îles artificielles qui amènent plus d'eau. Venise n'est plus Venise, elle a été détruite. C'est Disneyland. Les politiques ne font que parler et puis ciao.
Il y a aussi ceux qui ont dû quitter Venise. Marco est facteur. Il fait sa tournée dans le quartier de la Scuola de San Rocco qui conserve les œuvres du Tintoret. un quartier dans lequel il ne peut pas habiter.
Parce que je n'avais pas les moyens d'acheter un appartement. C'est aux politiques, à la mairie de faire en sorte d'aider ses habitants. De 150 000, on est passé à 40 000.
Même certains touristes sont sensibles à cette colère, après la surprise et l'excitation d'avoir vécu un moment particulier. C'est le cas de Gilles, qui vient de passer une semaine à Venise.
Quand on voit la façon dont les gens écopent de leurs bateaux, quand on voit les bateaux retourner, quand on voit les maisons envahies d'eau, on se doute bien que ce ne va pas être toujours facile pour eux. Si effectivement Venise n'est pas plus protégée, c'est le patrimoine mondial qui s'écroule.
Les autorités politiques commencent à s'inquiéter de la mauvaise image que renvoie Venise à l'étranger. À Venise, Bruce de Galzin, France Inter.
Une nouvelle fusillade dans un lycée aux États-Unis. Selon un premier bilan, au moins 7 personnes ont été touchées par balle à Santa Clarita, dans la banlieue nord de Los Angeles. Le tabac tue, la cigarette électronique aussi. Cela s'est passé en Belgique, une première chez nos voisins. Un jeune homme de 18 ans est mort à cause d'une insuffisance respiratoire. Les autorités l'attribuent au vapotage et à un mélange de produits nocifs dans la cigarette électronique. Plus question d'envoyer tous ces déchets en Asie. La Malaisie n'en veut plus, d'une part, et renvoie les porte-conteneurs en Europe. D'autre part, la France vient de condamner une société de courtage à une amende de 192 000 euros. Les déchets ont été jugés non conformes. Le ministère français parle d'un signal fort envoyé aux sociétés de courtage pour mettre fin à ces pratiques. Un plan de départ volontaire à Radio France. La PDG du groupe public Sybille Veil a annoncé aujourd'hui la suppression de 299 postes sur 3 ans. 236 feront partie d'un plan de départ volontaire. Le projet prévoit 60 millions d'euros d'économies à faire d'ici 2022. Un plan insoutenable, dénonce le syndicat SNJ. La saison des prix littéraires s'achève par une belle prise pour Karine Thuil. Une double prise. Hier, l'Interallié, et aujourd'hui, la romancière décroche le prix Goncourt des lycéens pour Les choses humaines chez Gallimard. Le récit d'un procès pour viol d'un jeune homme étudiant à Polytechnique, fils d'une star de la télé. Le Goncourt des lycéens est l'un des prix qui fait le plus vendre en librairie. Il a été décerné à Rennes par des jeunes qui ont livré le secret de leur délibération à François Rosy.
Le prix Goncourt des lycéens 2019 a été attribué à Karine Thuil pour son roman Les choses humaines.
Après avoir annoncé le lauréat, le jeune président du jury, Victor Belin, lycéen en Lorraine, explique son choix et celui de ses camarades.
C'est un roman qui est important dans une société. C'est un roman qui aborde donc le thème du viol, mais également le thème des hautes classes, les médias également, les réseaux sociaux. Et finalement, ça mélange un petit peu tout ça tout en restant neutre et objectif. Karine Thuil arrive très bien à aller jusqu'au bout de son histoire et c'est un roman qui nous a emporté, qui nous a plu.
Rapide coup de fil à l'auteur pour lui annoncer la nouvelle.
Vous venez de remporter le Goncourt des lycéens 2019.
Je suis extrêmement émue là, en vous entendant. Ça fait plusieurs fois que j'ai la chance de participer au Goncourt des lycéens et j'ai à chaque fois une très grande joie d'avoir ces échanges avec les jeunes, avec leurs professeurs, en particulier sur des sujets de société que j'aborde souvent.
Le livre a marqué les jurés par sa force et son importance sociétale. Manon et Lucie faisaient partie du jury. Par ce choix, elle voulait aussi faire passer un message.
Comme quoi la jeunesse n'est pas tout le temps collée à son smartphone, on sait lire aussi encore et s'intéresser à autre chose.
Notre petit nombril, voilà, si on peut dire.
Le Goncourt des lycéens 2019 se sera finalement joué à 7 voix pour l'œuvre de Karine Thuil contre 5 pour Mur Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert.
Un prix Goncourt des lycéens qui vous réjouit. Mais vous avez adoré. Embarquement pour le Canada pour Thierry Henry, le champion du monde 1998 avec les Bleus, est nommé entraîneur de l'Impact Montréal, en espérant que cette expérience nord-américaine se passe mieux qu'à Monaco, où Thierry Henry a vécu un cauchemar sur le banc. Et d'autres champions du monde plus jeunes vont tenter de se qualifier ce soir pour l'Euro 2020. Il faut aux Bleus une victoire contre la modeste équipe de Moldavie, coup d'envoi à 20h45 au Stade de France. La neige tombe en ce moment, compris en plaine. On va y venir dans un instant avec Élodie Calac. Conséquence, pas de transport scolaire demain dans la Loire et dans le nord de l'Ardèche. Et la ligne de train entre Valence et Grenoble est coupée. Et justement, en parlant de neige, vous connaissez évidemment ça. Ne me remerciez pas, vous pensez que vous l'aurez dans la tête toute la soirée. Pas forcément, car Disney a l'intention de vous rendre fou avec un autre refrain.
Dans un autre monde.
Je comprends pas pourquoi il faut toujours aligner les voyelles dans la Reine des Neiges.
Ça monte haut, hein. Ça monte très très haut. Voilà, voilà. C'est celui de La Reine des Neiges 2. Il sort mercredi prochain. Mais Julien Baldacchino l'a vu en avant-première et vous le raconte et le critique. Dès maintenant, c'est sur notre site franceinter.fr.
Donc c'était juste pour le plaisir d'entendre la chanson.
Dans un autre monde.
Amélie Terrier, dans un autre monde.
Voilà.
Merci beaucoup. Et à tout de suite dans Un jour dans le monde aussi. Ce soir, Amélie, on prend des nouvelles de l'Éthiopie qui semble terriblement mal en point, en fait, depuis que son premier ministre est prix Nobel de la paix. Vous avez vu que c'est dommage. Nous sommes au Sri Lanka aussi, dans le bruit du monde. Et puis en deuxième heure, le téléphone sonne. Vous êtes déjà nombreux à nous appeler. Tant mieux. Continuez. On parle de l'hôpital ce soir. Le constat, tout le monde l'a fait. Manque de moyens, manque d'effectifs, conditions de travail. Mais quelle solution alors? Quelle pression aussi sur le gouvernement? Les blouses blanches étaient dans la rue aujourd'hui. On en parle ensemble donc au 01 45 24 7000. Et sinon, qu'est-ce qui se passe dans le ciel?
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, 11 départements en vigilance orange.
Oui, alors pour des fortes pluies de la basse vallée du Rhône à la Côte d'Azur ce soir, attention aussi aux inondations, au risque de submersion sur le littoral. Entre Rhône-Alpes et le sud de la Bourgogne, vigilance orange pour la neige, jusqu'en plaine ce soir et cette nuit. On a déjà 5 cm à Valence, il neige en ce moment à Lyon. On attend vraiment des quantités importantes, jusqu'à 10 à 30 cm près du Rhône, plus sur les premières hauteurs. Donc prudence, hein, la neige lourde, collante, elle peut provoquer des dégâts importants sur la végétation, sur le réseau électrique et puis elle impactera aussi les transports.
Et une neige d'ailleurs qui persiste demain matin.
Du nord de Rhône-Alpes jusqu'au Val-de-Saône, mais ça ne durera pas. L'après-midi, on retrouvera un temps sec. Des pluies, on en aura du nord-est vers le centre, l'Île-de-France et le nord, puis jusqu'à la Manche l'après-midi. Et puis ailleurs, des nuages, quelques averses surtout vers la Corse et des températures plus froides, moins 2 à 4 degrés le matin, 4 à 10 l'après-midi.